Salut à toutes, salut à tous, salut Samy.
Salut Geoffroy, salut à tous et bienvenue sur EJT Sport, votre podcast à retrouver sur toutes vos plateformes de streaming, Apple Podcast, Deezer, Spotify. On va, comme à notre habitude, décrypter l'actualité sportive locale en parlant des résultats du Stade Toulousain. C'était vendredi face à Gloucester. On fera aussi le débriefing de la rencontre du Phoenix contre Ivry en handball. Et on abordera le volley avec les Spacers, le tennis et la F1 fera son entrée dans EJT Sport.
Et avec nous pour nous accompagner, on prend les mêmes avec quelques nouveaux.
Alors, puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous.
Alors ah oui, on va les présenter avec plaisir. Arnaud Deschlotte et Florent Larios pour le rugby. Au handball, on garde Hugo qui sera épaulé de Victor Coudreau. Pour les Spacers, on aura Jean-Tian qui nous fera un petit résumé. Et enfin, Clément sera notre spécialiste F1 pour cette fin d'émission. Et sans plus tarder, on commence avec notre rubrique Caramel et Chistera.
Donc on se tait et on reste concentré sur ce
Et un stade pris dans le piège anglais vendredi avant un sursaut en seconde mi-temps pour une victoire au forceps, Geoffroy.
Ça c'est clair qu'au début on se demandait si ce n'était pas une mauvaise blague. En fait, c'est simple, nos rouges et noirs avaient tous les arguments pour scorer. La possession, le jeu, le terrain et pourtant, Gloucester et leur demi de mêlée Joe Simpson mènent 20-9 à la pause grâce à deux essais en contre de ce joueur bien en canne ce soir-là, malgré ses 31 ans.
Ouais, c'est dommage hein, parce qu'on sentait que les Toulousains pouvaient mieux faire.
Bah oui, ils vont faire mieux même en seconde période justement. À commencer par une défense qui se resserre, un jeu au pied utilisé de manière plus pertinente. Les Stadistes gardent le ballon et scorent souvent après avoir multiplié les temps de jeu. Et c'est de cette manière qu'ils plantent leur premier et seul essai à la 63e. Fin du match sur un score de 20-25, une saison européenne qui, sur le plan comptable, pouvait pas mieux commencer avec une victoire à l'extérieur. Mais sur le plan du jeu, messieurs, que pensez-vous de ce premier match de Champions Cup ?
Ça a été un peu ambivalent quand même sur le jeu, on pourrait dire. On a eu quand même de belles propositions de jeu, de bons lancements, surtout en première mi-temps où ils ont quand même énormément dominé. Ils ont vraiment eu une possession et une domination territoriale assez impressionnante. D'ailleurs, à la fin du match, on voit ils ont dominé c'est 73% de l'occupation du territoire. C'est assez rare à voir aujourd'hui dans le rugby moderne. Mais il y a eu des petites erreurs qui font qu'il y a eu des pertes de balles et surtout des essais pris en contre.
Il scorise aussi Arnaud. Hein.
Ça reste un match très intéressant, parce que, notamment sur la physionomie, parce que voilà, comme il l'a dit, il y a beaucoup de maîtrise, c'est un match qui commence bien pour eux, où ils sont intéressants, ils dominent pas mal l'adversaire, ils se font surprendre et ils ont fait preuve de pas mal de maturité et de maîtrise pour revenir tranquillement en seconde période, et c'est le genre de match qu'ils auraient peut-être pas gagné l'année dernière.
Justement les gars, vous en avez parlé, 25-20, Flo tu l'as dit, 71% de possession de balles. Alors est-ce que au vu de la physionomie du match, est-ce que pour vous c'est mérité cette victoire du Stade ?
Mérité, je pense qu'on peut pas dire le contraire, c'est évidemment que c'est mérité. Gloucester, ils ont uniquement joué grâce aux erreurs du Stade et en contre. Il y a qu'à voir les deux essais du demi de mêlée Joe Simpson. C'est sur une perte de balle dans les 22 de Gloucester et contre-attaque immédiatement derrière. Donc mérité, ça on peut pas dire le contraire, c'est une certitude. Le Stade a totalement dominé son match, même s'il n'y avait pas eu ces erreurs, le score aurait pu être beaucoup, beaucoup plus lourd.
Ils ont vraiment été dominateurs, ils se font surprendre deux fois sur des actions personnelles, mais enfin, c'était vraiment un bon match de leur part à l'extérieur. Les conditions n'étaient pas faciles, le temps était mauvais. Et voilà, ils ont fait preuve de beaucoup de maturité. Ils ne se sont pas affolés. Ils sont menés 20-9 à la mi-temps. Ils mettent une grosse pression au retour des vestiaires. Ils reviennent petit à petit avec des pénalités. Et non, ça aurait été illogique qu'ils ne gagnent pas, parce que vraiment, ils ont dominé leur adversaire.
Ouais, moi je rejoins Flo un petit peu hein, sur la manière dont ils ont joué avec les pénalités. Ils auraient pu faire beaucoup plus, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement on a eu un Stade Toulousain qui d'habitude joue à la française, bah là l'a joué à l'anglaise quoi, avec donc beaucoup de pénalités. Comme dit Arnaud, ils se sont pas affolés, ils ont été pragmatiques, voilà, à l'anglaise, et c'est ce qui fait qu'ils se sont remontés progressivement en prenant les 3 points. Ils ont mis qu'un essai, ce qui est très rare hein, pour le Stade Toulousain, mais voilà, ils ont en prenant 3 points, ils ont réussi à gagner le match.
Justement, est-ce que le Stade Toulousain, selon vous, aurait pas un peu trop joué au pied, justement, dans ce match ? On sait que les clubs anglo-saxons, ils en usent, ils en abusent. Nous l'avons peut-être un peu trop utilisé en première mi-temps, non ?
Moi, c'est ce que j'ai trouvé, en tout cas, ouais. Et quand je disais, justement, que le Stade Toulousain joue à l'anglaise, c'est le cas. Ils ont vraiment beaucoup joué au pied et je pense que peut-être qu'on t'entend un peu plus parce qu'il y avait vraiment des surnombres parfois évidents, on l'a vu avec Florent, hein, il y avait vraiment des surnombres parfois évidents et pourtant ils ont préféré jouer au pied. Peut-être que s'ils avaient plus joué à la main, ils auraient peut-être plus engrangé de pénalités et donc réussi à avoir plus de points. Mais voilà, en tout cas le résultat est là et c'est pas grave.
Ouais, moi ça m'a pas choqué, je suis pas spécialement d'accord. Je pense que déjà c'était une consigne claire de la part du staff. Les conditions n'étaient pas évidentes, donc c'est une arme dont ils ont souvent recours et qui a été plutôt bien gérée, je trouve, et qui alors a permis de bien occuper le terrain, comme le disait Flo. Donc non, moi je trouve que c'était plutôt une bonne stratégie.
Flo, t'en penses quoi?
Je vais rejoindre Arnaud. En soi, c'est presque logique qu'on utilise le jeu au pied, surtout avec ces conditions, et surtout devant des équipes anglo-saxonnes, les prendre à leur propre jeu, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour réussir.
Bon, maintenant, on en vient aux petites récompenses pour vous. S'il faut retenir un arrière et un avant dans ce match, les gars, qui ressort du lot?
Bah, pour les lignes arrière, il y a Guitoun quand même qui fait un gros match. Enfin, il a été omniprésent. Autant au match d'avant contre Clermont, ça avait été peut-être le moins en vue des arrières toulousains, mais ce soir, vendredi soir, il a été excellent. Et ouais, si je devais en retenir un, ce serait lui.
Pour compléter ce que dit Arnaud, Guitoun, c'est quand même, on va parler un peu chiffre, c'est 139 mètres parcourus. Le seul joueur qui a fait plus de mètres, c'est Joe Simpson, qui a fait quand même deux courses de 80 mètres. Donc c'est à souligner que Guitoun a vraiment été très tranchant vendredi soir.
Ben écoutez, moi je vous rejoins encore une fois vous deux, Sofiane Guitoun, tranchant, alors peut-être qu'il n'a pas mis d'essai, peut-être qu'il a encore un petit peu ce côté croqueur, c'est son péché mignon, mais en tout cas moi j'aime beaucoup Sofiane Guitoun, là encore une fois il a montré que c'était pas la saison qu'il avait fait dernièrement, comme beaucoup de joueurs comme ça qui se révèlent, c'était pas qu'une saison d'exception, il est bien sur sa lancée, il est sûr de ses faits, et voilà, il réussit encore une fois à faire un beau match ce soir là.
Je suis sûr que ça n'a pas échappé à vos radars, les gars. Il y a eu une grosse actu cette semaine. C'était les Oscars du Middle lundi soir. Et il y a deux joueurs qui ont retenu notre attention. Hein. C'est Antoine Dupont et Cheslin Colby, nos deux pépites. Le premier, il a été élu meilleur joueur français lors de la cérémonie. Et le second, meilleur joueur du monde. On va pas se le cacher. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Ça n'en est pas une? Enfin, vous en pensez quoi?
Non, je pense que c'est assez logique. Pour Dupont, du moins, il voulait récompenser... Enfin, j'imagine qu'il voulait récompenser un Toulousain. Pour moi, c'est pas forcément celui qui fait la meilleure saison l'année dernière. Mais il a quand même, enfin, il est champion de France, il fait des grosses performances, il a fait une très bonne Coupe du Monde avec l'équipe de France. Je pense que ça a pas mal pesé, surtout qu'il revenait des ligaments croisés. On sait que c'est vraiment dur de se remettre d'une blessure pareille. Il est tout de suite revenu très en forme.
Je suis vraiment d'accord avec toi, Arnaud. Dupont, il a quand même démontré de bonnes choses la saison dernière. Revenir de blessure, c'est jamais évident, surtout les croisés. Évidemment, il est revenu en novembre. Il a eu une petite rechute, il me semble, c'était en décembre ou janvier, je ne veux pas dire de bêtises. Il est quand même revenu à temps pour la Coupe du Monde, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, pour Cheslin Colby, c'est vraiment mérité qu'il ait une récompense. Il a fait une saison exceptionnelle. Il a été exceptionnel à la Coupe du Monde. On l'a vu déposer Farrell, qui est quand même un des meilleurs défenseurs des lignes arrière au monde. Et c'est pas rien d'arriver à faire ce genre de choses. Il s'est imposé en Afrique du Sud alors que personne ne le voulait. Et Rassi Rasmus remercie justement le Stade Toulousain d'avoir relancé un tel joueur. Et nous aussi, on peut le remercier parce qu'un phénomène comme ça, on n'en voit pas souvent.
Ouais, et puis surtout, il a réussi à s'illustrer avec les box qui ont un jeu extrêmement réducteur. Il avait très peu de ballons et on a quand même vu à son avantage. Ça montre à quel point il a été performant cette saison.
Bah pour ma part, les gars, vous prêchez un convaincu, hein, parce que moi, Cheslin Colby, bon, bah, je suis tout simplement son fan numéro 1. C'est vrai que ça fait plaisir parce que voilà, il y a une dizaine d'années, on était dans un rugby très contact, justement. Inspiré des Sud-Africains, un rugby avec des gros gabarits, on commençait à avoir des gros ailiers. Je prends par exemple Nadolo, qui est justement l'antithèse de Cheslin Colby, un beau bébé de 120 kg et 1m90 et qui est pourtant ailier. Et donc Cheslin, lui, il est arrivé il y a 3-4 ans au Stade Toulousain et Dieu que ça fait du bien, quoi, parce qu'on en avait besoin de ces joueurs-là, justement, qui prennent les intervalles, qui réinventent le rugby aérien comme on l'aime. La balle à l'aile, la vie est belle, comme on le disait. Et donc là, Cheslin Colby, c'est l'incarnation parfaite de cette métaphore.
Merci Geoffroy, les auditeurs de JT Sport sont prévenus. Et vous le savez, on parle pas que du stade hein, dans cette émission. Et pour terminer justement, on n'oublie pas les autres clubs locaux et notamment ceux de la Pro D2 avec toi Flo.
Ouais bien sûr, ce week-end il y a un petit derby, on pourrait dire, avec Montauban-Carcassonne. C'est plutôt une rencontre, on pourrait qualifier de enjeu, notamment puisque l'USM, c'est Montauban, reste sur une victoire à domicile contre Biarritz. Une défaite à l'extérieur à Grenoble, ils ont gagné leur dernier match à domicile contre Biarritz. Ils jouent pour l'instant, ils sont proches de la zone rouge, après ils ont deux matchs de retard, donc c'est quand même à nuancer. Et Carcassonne qui surprend tout le monde cette saison, ils sont accrochés au top 6, Et donc peut-être pour jouer une petite place qualificative pour essayer de monter en top 14. Mais bon, maintenant, ce n'est pas les priorités de l'USC, mais c'est le match à regarder de cette journée de Pro D2.
Et on notera que tu n'as pas parlé de Pau, ce qui est une sacrée performance.
Ouais, pour un Béarnais chevronné comme toi. Bon, ben merci beaucoup. Merci à vous, Flo. Merci, Arnaud. On accueille maintenant Hugo et Victor pour notre fameuse rubrique, c'est Pastis et Roucoulette.
On a beaucoup de respect pour cette équipe, on a beaucoup de respect pour tout ça. Mais le meilleur respect qu'on va avoir, c'est de les défoncer, quoi.
Colossal, gigantesque, fantastique, phénoménal.
Salut Hugo, salut Victor.
Salut.
Le Phoenix poursuit sa bonne série de 5 matchs sans défaite et de 3 victoires d'affilée. La dernière en date, c'était mercredi dernier face à Chambéry, 25-24 à l'extérieur. C'est une rencontre qui a été disputée jusque dans les derniers instants où les Toulousains ont fait tomber les Savoyards dans leur phare sacré à l'issue du Money Time. Une véritable performance des joueurs de Philippe Gardan qui grimpe donc à la 3ème place du classement avec cette victoire et qui confirme leur rôle d'invité surprise. D'ailleurs, est-ce qu'on peut encore parler d'invités surprise après 9 journées ou de véritables outsiders à une place dans les 5 premiers?
Ouais, Samy, c'est vrai qu'on ne les attendait pas à ce niveau-là à l'aube de la 10ème journée, ça c'est certain. Mais lundi, au micro de JT Sport, Philippe Gardan nous disait que la donne avait changé. Désormais, lorsqu'on analyse le match des Phoenix, on analyse leur match, on ne dit pas que c'est l'autre équipe qui a déjoué, vous voyez? Donc ça veut peut-être dire qu'il y a une méfiance nouvelle chez les adversaires et chez les observateurs. Et donc ça veut peut-être aussi dire qu'on commence à se méfier et donc ça peut devenir un véritable outsider.
Ouais, tout à fait. Il y a un plan anti-Steins qui a été fait à Chambéry. On l'a vu, il s'est pris plusieurs, dans le rugby, plusieurs caramels dans la tête. Et donc on sent qu'ils sont de plus en plus attendus en fait à chaque match. Donc là, on en parlera plus tard, mais bon, c'est la réception d'Ivry dès ce soir. Un adversaire un petit peu plus, on va dire, accessible. Mais en tout cas, dans la gestion des gros adversaires comme pour l'instant le PSG ou encore, on va dire, Chambéry, même Nîmes, pour l'instant, le Phoenix tient le choc et est plutôt bien.
Alors messieurs, quelle a été selon vous la clé du match qui s'est décanté assez tard hein?
Bah oui, comme tu le dis, c'est décanté dans le Money Time, en fait, dans les 10 dernières minutes du match. On a assisté tout le reste du match à un chassé-croisé entre les deux équipes au niveau du score. Il y avait 14-14 à la mi-temps. Le Phoenix a pas su véritablement creuser l'écart, on va dire, en menant juste maximum d'avance. Je crois que ça a été un plus 3. Donc ça a vraiment été un chassé-croisé. Il y a eu le rôle des ailiers qui a été très important en fin de match. On n'a pas assez souligné, mais l'importance de Ferran Solé aussi, en compensation de Luke Steins, en poste de demi-centre. Donc pour l'instant, c'est vraiment un collectif qui marche bien. Il y a des actions, il y a un jeu qui a été retrouvé aussi, un jeu attrayant, très important pour le Phoenix aussi. On sait que les dernières années, c'était plutôt vers le bas du classement. Que le Phoenix était habitué à se placer. Et puis là, finalement, il joue le haut parce qu'il y a un renouveau dans le jeu, dans les joueurs. Et donc, je pense que c'est important pour la continuité.
Ça a été quoi la clé pour toi, Victor, dans ce match?
Pour moi, la clé, c'est les 7 arrêts en seconde période de Letens. En première période, il était un petit peu en dedans. Il a été remplacé. Il est revenu après la pause. Il valait mieux faire ces 7 arrêts-là en seconde période parce qu'en face, on avait Julien Meyer, le gardien de Chambéry, qui en a fait 9, qui a été extrêmement bon, qui a fait des parades incroyables. Et donc si Letten ça n'avait pas été au niveau, je pense vraiment que Toulouse aurait perdu. Donc voilà, à mettre.
Puis aussi à souligner le rôle de la défense, qui a vraiment bien défendu. Ouais. On voit que Steins a encore été utilisé en 5-1, c'est-à-dire en position de défenseur avancé. Donc ça a été très important pour gêner les attaques de Chambéry. Et en attaque, le jeu à 7, qui est rarement utilisé, mais qui est important pour le Phoenix, parce que ça lui permet d'apporter des surnombres, et donc de se procurer encore pas mal d'occasions, et donc de les mettre au fond. Quoi.
Ouais, pour nuancer juste un petit peu, en seconde période, les Chambériens ont été vachement maladroits quand même, même si Letten fait 7 beaux arrêts. En face, ils ont été maladroits.
Justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. On connaît la force du Phoenix sur sa base arrière notamment, mais est-ce que vous pensez que le Phoenix a les ressources nécessaires pour tenir le rythme face aux gros?
Bah pour l'instant, on se demandait si ça allait tenir, puis on s'aperçoit qu'on s'approche de la trêve hivernale et que finalement le Phoenix est 3ème, 2ème si on compte on va dire le resserrement au niveau du classement, parce qu'il faut savoir qu'il y a 5 équipes de la 2ème à la 6ème place qui sont au même nombre de points. Donc le Phoenix fait partie pour l'instant des équipes de tête avec Nîmes, Aix, il y a aussi Montpellier par exemple. Donc C'est, pour l'instant, ça tient le coup. On sait que c'est un jeu basé sur la vitesse, sur la rapidité, et qui pourrait peut-être être assez énergivore, on va dire, à la fin de saison. Voilà, on sait que la transition aussi après la trêve va être importante. Il va y avoir un mois de coupure, mois de janvier, mois de février, en raison de l'euro donc, chez les garçons. Donc ça aussi, c'est toujours difficile à gérer, mais pour l'instant, le Phoenix, tient le coup.
Ouais, puis les Toulousains ont un petit facteur X, c'est qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Ils ont plus de temps, plus de repos, et par rapport à d'autres équipes qui sont contre eux, Montpellier, etc., ça peut être favorable pour eux à la fin.
Bon, alors pour l'entraîneur Philippe Gardin, la donne est claire, le Phoenix doit rester les pieds sur terre dans une période de 15 jours où le club enchaînera championnat puis quart de finale de Coupe de la Ligue à Nîmes. On l'écoute, c'était lundi soir avant l'entraînement au Palais des Sports.
Ils ont perdu 3 fois de suite, mais il faut savoir qu'ils ont joué Paris, Nantes et Montpellier. Donc c'est quand même les 3 plus gros clubs du championnat, donc c'est un peu logique. Mais ils ont surtout fait un début de saison très bon aussi. Et c'est une équipe extrêmement dangereuse parce que déjà elle joue bien et puis elle est dangereuse sur tous les postes. Et puis il n'y a aucune équipe en LNH qui n'est pas dangereuse du tout. Donc la grosse erreur, c'est de croire que ça va être facile, loin de là. Et c'est ce qui nous a permis pour l'instant d'avoir des bons résultats, c'est qu'on a vraiment pris tout le monde au sérieux.
Alors Hugo, Victor, le Phoenix peut-il continuer sur sa lancée ou doit-il faire très attention au club francilien pour toujours être capable d'exploits ?
Ouais, moi je pense que le coach a raison, hein. Ivry, c'est une équipe très difficile à cerner, capable du meilleur, hein. En fin septembre ils avaient battu Saint-Raphaël et Chambéry en l'espace d'une semaine, et puis capable du pire aussi, hein. La semaine dernière à Nantes, contre Nantes, chez eux, ils ont fait franchement un match où ils étaient vraiment en difficulté, un match moyen. Ça va être difficile, ils sont dangereux, mais Toulouse a toutes les choses en main pour réussir.
Oui, effectivement, il y a tous les atouts pour l'instant pour que Toulouse puisse gagner ce match. On sait qu'ils sont largement, on va dire, supérieurs dans le jeu, mais toujours attention à ces clubs franciliens. Il y a Créteil aussi, Tremblay. C'est toujours des clubs difficiles à gérer parce qu'on ne sait jamais de quoi ils sont vraiment capables. Il y a des joueurs de qualité, il y a les frères Bataille qui sont là depuis une dizaine d'années et qui tiennent l'équipe à bout de bras pour l'instant. Il y a des ailiers aussi très importants comme Théophile Cosse ou encore Keita. On peut citer personne aussi, l'arrière-droit, meilleur buteur du club. Donc il va vraiment falloir faire attention. C'est un match à ne pas prendre à la légère pour espérer que le Phoenix puisse continuer à grimper encore plus haut que ce qu'il est pour l'instant.
Et on verra ça ce soir face à Ivry, vous l'avez dit. Et on termine ce nouvel épisode de Pastis et Roucoulette par le traditionnel état des lieux du classement et des matchs à venir de la 10e journée.
Concernant le classement, on a 5 équipes qui tiennent au même nombre de points derrière l'intouchable PSG qui est 9 matchs, 9 victoires. Donc de Nîmes 2e à Nantes 6e, tout le monde est à 12 points. Toulouse est à 3e place. Ceux qui ferment la marche, c'est Tremblay et Créteil avec respectivement 4 et 3 points. Donc pour les matchs de ce soir, mis à part le Toulouse-Ivry à 20h30, il y a un alléchant Montpellier-Pays d'Aix, hein, qui font partie toutes les deux de ces équipes à 12 points en haut du classement. Donc il y a pas mal d'enjeux sur ce match et je pense que c'est un match très intéressant. Et puis pour ceux qui ont plus envie de voir des buts et se régaler, il y a Créteil, qui est le match des extrêmes, hein, entre Créteil et l'Ogre PSG. Intéressant aussi.
Ok, bah merci beaucoup les gars. On rappelle donc que le prochain match, c'est ce soir contre Ivry.
Alors du parquet à la piste de course, il n'y a qu'à pas, enfin, peut-être plusieurs. Hein. Et pour nous en parler, qui de mieux que Clément, notre spécialiste F1 du jour. Dimanche, Pierre Gasly est arrivé 2e du Grand Prix du Brésil. C'est la première fois depuis que Romain Grosjean, en 2015, qu'un Français monte sur un podium de Formule 1. À 23 ans, alors que son début de carrière connaît des hauts et des bas, le coureur français nous a fait bien plaisir. Clément.
Dimanche au Brésil, c'est son premier podium et quel suspense. Spectaculaire pour résumer, il réalise une course parfaite au volant de sa Toro Rosso, on pense qu'il va terminer 6e, quand deux accrochages entre deux Ferrari puis entre Lewis Hamilton et Alexander Albon le propulse en seconde position derrière son ancien coéquipier chez Red Bull Max Verstappen, s'ensuit une dernière ligne droite à couper le souffle côte à côte avec le sextuple champion du monde Hamilton, mais le français ne laissera pas la Mercedes de son adversaire le dépasser et boira bien le champagne du 2e. Avec ce podium, Gasly s'offre l'une des plus belles performances en Formule 1 pour un Français au XXIe siècle. Et surtout, il fait preuve d'une grande force mentale. 2 ans de carrière seulement, et tu l'as dit Geoffroy, des hauts et des bas pour Pierre Gasly, un podium et des montagnes russes. À 21 ans, il démarre chez Toro Rosso en bouclant une saison, 5 circuits réussis qui lui permettent d'être reconduit la saison d'après. Une 4e place au Grand Prix de Bahreïn, globalement sa première saison complète parmi les meilleurs coureurs du monde est réussie et le Français et de suite récompensé, il est promu chez Red Bull pour la saison 2019. La vie est belle, Christian Horner, directeur de Red Bull, prévenait alors « Ses performances n'ont fait que renforcer sa réputation de jeune pilote le plus excitant de l'avenir du sport automobile. Rien que ça, Mais ça ne se passe pas aussi bien que prévu, du moins pas assez pour satisfaire l'encadrement de Red Bull. Au Grand Prix de Hongrie, il prend même un tour de retard sur Verstappen, son coéquipier. Conséquence, l'écurie le renvoie chez Toro Rosso, coup dur qui peut clairement être vu comme un pas en arrière. Ça soulève des questions, était-il prêt? A-t-il souffert de la comparaison avec Verstappen? Puis finalement, il accroche dimanche son premier podium avec Toro Rosso et l'an prochain, ce sont ces couleurs-là qu'il défendra. Vous imaginez bien qu'après cette course folle, bah, j'ai voulu tout savoir sur Pierre Gasly. Et pour tout savoir, où est-ce qu'il faut aller, Geoffroy?
Sur Google déjà, je pense.
Ouais, Samy.
Wikipédia peut-être.
Allez,
sur Wikipédia. Alors, je suis allé sur Wikipédia et maintenant, je sais tout. Et je vous le dis, rien n'est dû au hasard. Son grand-père, Jean, a fait partie de l'équipe de France de karting en 1961. Mais j'ai encore mieux, sa grand-mère, Evelyne, a été, tenez-vous bien, championne régionale de Normandie dans les années 60. Et ouais, déjà les grands-parents étaient chauds. Et son père, Jean-Jacques, champion de Normandie aussi, ainsi que champion de France d'endurance 205 en 205 Peugeot, c'est du costaud, c'est du Pierre Gasly.
Merci beaucoup Clément. Merci, et bah, écoute, on espère que les enfants de Pierre Gasly auront aussi cette chance de voir sur leur page Wikipédia que leur père était champion du monde de Formule 1. On reste sur le sport auto maintenant avec une nouvelle qui vient d'arriver et c'est Jean-Cyan qui va nous en parler avec son flash sport.
Oui, alors on vient de l'apprendre ce matin, le pilote de WRC Sébastien Ogier a annoncé sa décision de quitter l'écurie Citroën. Ce départ fait sans doute suite à une saison quelque peu décevante de la part du Français qui a terminé seulement 3e du classement des pilotes. Et dans la foulée, on a Citroën qui a publié un communiqué annonçant la décision de la marque de mettre un terme à sa saison de WRC, faute en fait de pilote de pointe pour 2020.
Ouais, bon, c'est un tremblement de terre hein, pour la marque Citroën. Et sinon, dans l'actu des Spacers, Jean-Cyan?
Alors, bah, notre équipe toulousaine était sur une bonne dynamique après la belle victoire contre l'Arago de 7 vendredi dernier, mais malheureusement, ils se sont inclinés 3-7 à 0 à Ajaccio hier soir. Avec cette défaite, les Spacers pointent quand même à une honorable 7e place, avec 12 points au compteur, et le leader Rennes est à 20 points, donc largement devant. Mais derrière, les équipes sont dans un mouchoir de poche. Le 3e est à 16 points, le 4e à 13, donc seulement à une longueur de notre équipe toulousaine. Vous l'avez compris, rien n'est donc perdu pour les Spacers. Il faudra juste tenter de se relancer lors du prochain match, samedi à 19h contre Nantes, où les Toulousains auront cette fois l'avantage de jouer à domicile.
Sinon, côté basket, pas d'équipe toulousaine, hein, malheureusement, mais quand même une équipe française qui continue son parcours en Euroleague.
Ouais, tout à fait. Alors dernièrement, on a beaucoup parlé du beau parcours de l'ASVEL, donc l'équipe de Lyon-Villeurbanne, qui est la seule équipe française engagée dans cette compétition européenne. Ils avaient notamment créé l'exploit en battant le tenant du titre européen, le CSKA Moscou, il y a 11 jours. Mais malheureusement, ils se sont inclinés hier soir à domicile contre l'Anadolu Efes Istanbul sur le score de 84 à 90. Les Villeurbannais pointent désormais à la 9e place de l'Euroleague avec 14 points, mais seulement à 2 points du leader, donc, et qui n'est autre d'ailleurs que leur adversaire d'hier soir. Autant vous dire que rien n'est joué pour cette Euroleague et on espère encore voir briller cette équipe française. Prochain match pour l'ASVEL ce vendredi à 20h45 contre Fenerbahçe.
Et enfin, côté tennis, on a eu un très gros week-end hein, avec la fin du Masters de Londres.
Ouais, c'est ça. Alors, on a eu la chance d'assister vraiment à de très beaux matchs ce week-end. Alors d'abord avec les demi-finales de samedi, mais évidemment, c'est les finales de dimanche qui nous intéressent. On va commencer par la finale du double, pour laquelle la paire donc franco-française Mahut Herbert s'est qualifiée sans perdre un set. Pour rappel, ils avaient déjà atteint la finale du Masters l'année dernière, mais ils s'étaient inclinés malgré des balles de match au super tie-break. Et je dois vous dire que pour avoir vu personnellement le match, c'était vraiment une défaite cruelle. Donc ils étaient là ce dimanche pour espérer décrocher enfin ce titre qui leur échappait, et c'est chose faite après leur victoire 6-3, 6-4 au terme d'un match maîtrisé de bout en bout. Et c'est seulement la seconde paire franco-française à s'imposer au Masters après Liodra et Santoro en 2005.
Ouais, superbe perf hein, pour le tennis français. Et la finale du simple, ça donne quoi, Jean-Cyan?
Alors là aussi, c'était vraiment une très belle affiche. Dominic Thiem contre Stefanos Tsitsipas. Alors deux joueurs qui avaient affiché un excellent niveau de jeu tout au long de la semaine. On s'attendait à une finale vraiment très accrochée et on n'a pas été déçus. Le premier set a été remporté par Thiem après plus d'une heure de jeu au terme d'un tie-break haletant, remporté 8-6 donc par l'Autrichien. Et les deux hommes évoluaient vraiment à un niveau exceptionnel, ils relâchaient jamais la pression. Après le gain de la première manche, l'Autrichien a un peu baissé en intensité, tandis que le Grec a continué de dérouler son jeu d'attaque. Résultat, il a empoché la deuxième manche beaucoup plus facilement, 6-2, ce qui l'a relancé dans cette finale. Le dernier set fut beaucoup plus disputé, comme on pouvait s'y attendre. Tsitsipas a breaké dès le troisième jeu, mais Tim s'est repris en débreakant quelques instants plus tard. Le match est ensuite reparti sur les bases du premier set, ce qui fait que cette finale s'est décidée dans un ultime tie-break, évidemment. Honnêtement, le match, il aurait pu basculer d'un côté ou d'un autre. On a vraiment eu un tennis de très très haut niveau et c'était difficile de savoir qui allait prendre l'ascendant. Et finalement, c'est Tsitsipas qui s'est imposé sur un dernier service gagnant. Alors à seulement 21 ans, c'est le sixième joueur le plus jeune à remporter le Masters, donc c'est une excellente performance de la part du Grec. Et ce titre vient clôturer sa belle saison en beauté. Et nul doute qu'on le verra parmi les prétendants à des titres majeurs l'année prochaine. Donc ainsi se conclut le dernier tournoi ATP de l'année, mais ne vous inquiétez pas, la saison tennistique n'est pas encore tout à fait finie. La dernière épreuve est bien sûr la Coupe Davis nouveau format, qui se déroule cette semaine à Madrid. La France y a fait son entrée en lice hier, mais cela n'a pas été un long fleuve tranquille, n'est-ce pas Gauthier ?
Assurément, Jean-Siane, l'équipe de France s'est tout de même imposée au terme de trois rencontres face au Japon, privé de leur numéro 1 Ken Nishikori sur le score de 2-1. Rappelons qu'une rencontre de Coupe Davis est désormais deux matchs de simple et un match de double, le tout en 2-7 gagnants et non 3 comme avant. Dans ce cadre, Joe Wilfried Tsonga s'est d'abord imposé face à Yasutaka Yoshiyama, 81e mondial, sur le score de 6-2-6-1. Ensuite, Gaël Monfils, apparu à bout de souffle face à Yoshito Nishioka, s'est incliné sèchement en 2-7, 7-5, 6-2. Pour finir, la paire Mahu Herbert, récemment titrée, comme tu le soulignais, Jean-Siane, a peiné face au double japonais, mais les deux comparses tricolores s'en sont sortis au troisième et dernier set. Espérons qu'ils pourront bien récupérer avant d'affronter le double serbe jeudi, avec peut-être un certain Novak Djokovic. Les Français restent bien partis pour se qualifier en quart de finale.
Donc Gauthier, t'as suivi toi les débuts de cette nouvelle version de la Coupe Davis, alors qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que t'en retiens finalement ?
Alors Jean-Siane, je suis plutôt mitigé pour le moment, il y a du positif. Je trouve que les formules de rencontres sont intéressantes. Sur une journée, vous avez trois matchs, deux simples et un double, et le nombre de sets que vous remportez peut être décisif dans la qualification, parce que les deux meilleurs deuxièmes se qualifient. Donc il n'y a pas vraiment de match pour du beurre, à l'inverse, quelquefois, de l'ancienne version.
Mais tu notes quand même beaucoup de points négatifs. Finalement.
Oui, alors comment ne pas évoquer l'affluence, le nombre de spectateurs qui est médiocre jusqu'à présent. Pour ceux qui ont regardé l'équipe de France hier, c'était criant, des chaises vides partout autour du court. Quand on est habitué à avoir 27 000 personnes comme à Lille et qu'hier il y en avait 27 à tout casser, ça fait mal. Et parce que le public, en fait, c'est ce qui faisait la singularité de la Coupe Davis, avec énormément de bruit, des trompettes, etc. Donc l'ambiance en ressent évidemment. En outre, le plateau de joueurs réuni est l'une des raisons principales où lifting de la compétition reste décevant. C'était l'argument principal à la fin des matchs en 3-7, notamment en 3-7 gagnants. Si Djokovic, Nadal ou Andy Murray ont répondu présent, on regrette les absences, notamment de Roger Federer et d'Alexander Zverev, qui ont préféré jouer une exhibition en Argentine. Enfin, j'aurai un coup de gueule, c'est l'affichage de pub pour un concert de Shakira, la compagne de Gérard Piqué, le footballeur qui a racheté la compétition. Ce n'est vraiment pas à propos et très déplacé pour ma part. Au final, malgré quelques rencontres accrochées assez plaisantes, comme hier soir entre l'Espagne et la Russie, un Italie-Canada plaisant aussi, ou même France-Japon, tout ce qui est match à domicile, les grandes foules, le show, les matchs en 3-7 gagnants, bref, toute la magie de la Coupe Davis, ça paraît quand même bien loin, mon cher Geoffroy.
Bah oui, c'est surtout...
C'est vrai que t'es pas un grand fan de Shakira, Gauthier, en tout cas.
Sans commentaire, c'est mieux.
Merci beaucoup, Jean-Siane, merci Gauthier. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Vous pouvez nous retrouver chaque mercredi sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles, à partager le podcast et à en parler autour de vous. Moi, je te dis merci, Geoffroy.
Bah, merci à toi, Samy, c'était un vrai plaisir. Autour de la table, vous avez pu retrouver Florent, Arnaud pour le rugby.
Pour le handball, c'était nos experts Victor et Hugo.
Enfin, le Flash Sport était présenté par Gauthier et Jean-Siane.
On remercie encore une fois le chef Adrien pour la régie.
Oui, et donc jamais 203, c'est vous qu'on attend. On espère vous retrouver la semaine prochaine pour la prochaine émission de JT Sport. Salut à tous!